sur 103,5.
Qu'est-ce qu'un titre de propriété? Comment reconnaître un titre de propriété authentique? Quelles sont les démarches à suivre? Comment l'obtient-on? Qui a le droit de les délivrer? Des questions qu'on ne se pose pas toujours, mais qui parfois compliquent lorsqu'on est confronté à des problèmes fonciers. Nous en parlons avec notre concierge Jolie Laure Balivoto, qui est déjà dans ce studio. Bonjour Jolie.
Bonjour et bonjour à tous.
Vous êtes bien réveillée, j'espère.
Très bien.
Okay. Alors, qui peut avoir un titre foncier?
Oui, selon la loi foncière, on a le droit d'obtenir un titre foncier, toute personne de bonne morale et physique. Donc, chaque convenu a le droit de posséder une propriété dans n'importe quelle partie de la République. Mais la loi dit ceci aussi, quand vous achetez une parcelle et que vous l'avez mise en valeur, en ce moment-là, l'État vous octroie un titre de propriété et on peut devenir propriétaire par donation, soit par prescription, soit par succession, par testament, qui permet à chaque Congolais d'obtenir ou de devenir propriétaire.
Alors comment peut-on l'avoir? Mieux encore, quelles sont les démarches à suivre pour avoir un titre de propriété authentique?
Oui, cette question, nous l'avons également posée aux autorités compétentes. Je veux ici vous proposer de suivre tour à tour le ministre des Affaires foncières, M. Venanti Passa, et le chef des divisions du cadastre, M. Ngombo.
Pour qu'il y ait une parcelle, il faut qu'il y ait un arrêté du ministre des Affaires foncières qui crée les lotissements. C'est après cela qu'on va borner, on va morceler et on va commencer à distribuer des contrats. Donc l'État, maintenant, met à la disposition de la population certaines parcelles. Et quand on lotit, on dit très bien autant d'hectares, autant de parcelles, numéro cadastral de tel numéro à tel numéro.
Bon, il est écrit à l'administration, notamment au conservateur. Après, le conservateur va mettre ses avis, il va voir le bureau du domaine. Bon, le domaine, il fait une demande de travaux qui va renvoyer au cadastre pour désigner un géomètre qui va faire le constat sur le lieu. Après le constat du géomètre, on va attribuer un numéro cadastral et puis un contrat sera établi suivant ce numéro cadastral.
Alors, d'abord, on se tient pour excuser hein, là, par rapport à ces désagréments techniques. On va poursuivre avec vous, Jolie Laure. Avez-vous rencontré des gens qui ont suivi ces procédures avant d'obtenir un titre de propriété?
Bon, il faut dire que beaucoup de gens, il faut reconnaître beaucoup de gens suivent ces procédures pour obtenir leur titre de propriété, mais beaucoup non. Ici, je veux revenir sur l'affaire Sokopao dont on a parlé la semaine dernière pour mieux illustrer cet exemple. Les personnes qui ont, par exemple, occupé les sites Sokopao 1, 2, 3 et 3 bis, affirment avoir acheté en bonne et due forme leur lopin de terre. Ils affirment même avoir des contrats délivrés par les conservateurs de titres immobiliers. Je propose qu'on les écoute.
Toza kokama mingi, tozale awa mbula na mbula, tozui mikanda et wuti na affaire foncière, toza na ba contrat na biso. Mais kaka likambo moko wana kaka na onatra, l'onatra lobi, lelonga na zui mabele na ngai, lelo boy na boy. Ye moko mota senga ki, ba pesa ba travailler na ye, kolongwa première iri ti na 12e iri. Yangonde lotisme salamaka. Mais le lotoza kokamwa, bon, si koyo, toza na mikanda yango, toza koloba, toza na ma contrat. Oh, ya bisu mikanda ya pango, oh, tozuaki. Banda nona tweet, yangaye banda nona tweet, y'a des contrats. L'onatra elle-même a demandé à l'État à ce qu'on puisse lotir.
Nous avons fait confiance à ces autorités qui ont signé le document que nous tenons. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes signatures que possèdent les sites qui prétendent être légales, que se trouvent aussi sur le même document que les sites qui prétendent être illégales. Voilà pourquoi nous avons fait confiance à ces gens-là.
Voilà, ils ont fait confiance à ces gens-là. J'ai parié qu'il y a réellement des gens qui se font rouler comme ça. Mais dites-nous, Jolie, comment reconnaître un titre de propriété authentique afin d'éviter tous ces problèmes?
Oui, Nathalie Moutseva a fait un entretien avec M. Nsumbu, qui est conservateur des titres immobiliers. Je vous propose d'écouter leur entretien.
Oui, madame, le document est considéré comme titre de propriété quand il est délivré par les conservateurs de titres immobiliers. Alors, ces documents, on l'appelle certificat d'enregistrement.
Et alors, comment est-ce qu'on peut savoir que le document que vous détenez est un vrai document qui constitue le titre de propriété ou bien le certificat d'enregistrement?
Oui, madame, mais c'est facile. Parce que le titre de propriété, le certificat d'enregistrement, je l'ai dit tout à l'heure là qu'il est délivré par les conservateurs de titres immobiliers.
Oui, oui. Oui, monsieur Sumbu, nous voulons bien, mais maintenant on a constaté qu'il y a de plus en plus de faux en circulation. N'importe qui peut exhiber un certificat d'enregistrement, évidemment, avec...
Ah non, non, non. Alors, oui, mais alors, oui, le certificat pour être sûr que ce certificat
est délivré par les conservateurs de titres immobiliers.
Oui.
Mais il faut aller à la conservation.
Mm-hmm.
Parce que nous avons un seul registre mm-hmm. dans lequel vous trouverez des références de ce certificat d'enregistrement.
Mm-hmm.
Alors si c'est un faux, on va facilement le découvrir.
On saura un peu plus avec notre invité, Maître Dominique Camando, de l'ONG Avocat Sans Frontières. Il est déjà dans ses studios. Bonjour, Maître.
Bonjour, Pierre.
Alors, Jenny, on s'arrête là avec vous. Hein, le maître est déjà là. Je crois qu'il va continuer à éclairer la religion des auditeurs qui sont fidèles à Okapi Action et qui aiment bien le dossier que nous présentons. Vous nous avez présenté un grand dossier. Merci une fois encore et on se retrouve très prochainement.
À la prochaine.
Okapi Action. Envoyez vos questions, vos remarques ou encore vos commentaires par SMS au 081 070 20 50. Témoignez directement en composant le 081 890 63 94 ou encore écrivez-nous à l'adresse électronique suivante. action@radiookapi.net. Okapi Action, le magazine de la vie au quotidien.
Alors, Maître Dominique, pour commencer, un titre de propriété donne-t-il le droit à quelqu'un d'occuper un bien et à quelles conditions l'obtient-on?
Merci beaucoup, JR. En matière de propriété immobilière et foncière, il y a un principe conformément à la loi du 20 juillet 1973 sur le régime général des biens, les régimes fonciers et immobiliers et le régime des sûretés, la loi que l'on appelle couramment la loi dite foncière.
Mmh.
Sur base de cette loi, la propriété foncière revient exclusivement à l'État, c'est-à-dire que l'État est le seul propriétaire du sol
et
des sous-sols.
Mmh.
Maintenant, pour permettre aux particuliers de jouir du sol de l'État, l'État leur concède ce qu'on appelle le contrat de concession. L'État leur concède le sol pour qu'ils puissent en jouir. Et lorsque les personnes reçoivent par contrat le sol, ils sont tenus de le mettre en valeur, c'est-à-dire d'ériger des constructions pour lesquelles ils ont sollicité la demande des terres. Et c'est à ce moment-là qu'intervient les titres de propriété. Donc les titres de propriété viennent consacrer la propriété sur l'immeuble qui est érigé sur le sol de l'État.
Alors, auprès de quelle autorité une demande de titre de propriété est-elle déposée ou introduite?
En principe, selon la procédure au départ, on commence par une demande de terre, ce qui est converti après contrat de location, contrat de concession, jusqu'à obtenir les titres de propriété d'immeuble qu'on appelle les certificats d'enregistrement.
Mmh.
Toutes ces démarches se font au bureau du conservateur des titres immobiliers. C'est le conservateur des titres immobiliers du ressort où est située la parcelle ou le lopin de terre sollicité. C'est au conservateur que revient la compétence de dresser les titres de propriété.
Donc, dans le cas de notre, disons, de notre ville, si on peut être précis, nous avons à peu près 4 districts, je crois.
Effectivement.
4 districts. Donc, chaque district a au moins un conservateur.
A un conservateur de titres immobiliers.
Donc, un problème qui se pose au niveau du district de Mwamba ne peut être traité, hein, disons, la demande d'un titre de propriété ne peut être adressée qu'à un conservateur du Mwamba.
Effectivement, qu'au conservateur du Mwamba. Il y a un pour la Tiango, il y en a un autre pour la Funa et il y a l'autre pour la Lukunga, effectivement.
Oui. Alors, quelles sont les pièces à fournir pour l'obtention d'un titre de propriété?
Bon, ça, en principe, au départ, je disais qu'on commence par adresser une demande de terre au bureau du conservateur des titres immobiliers. À ce moment-là, lorsque vous obtenez les rapports de vacances, il y a le contrat des locations. Après les travaux de mesurage effectués par les cadastres, on annexe à ces dossiers les PV des mesurages et les rapports techniques des services des cadastres. Là, on obtient le contrat des locations. Et quand on a le contrat de location, on a un délai pour mettre en valeur.
Mmh.
Et dès qu'on commence la mise en valeur, qu'on commence les travaux, dès que la mise en valeur est entamée, on peut à ce moment-là obtenir un contrat de concession.
Mais toutes ces démarches, maître Dominique, en milieu urbain, ça ne pose pas de problème, parce que les gens doivent suivre normalement. Mais en milieu rural, généralement, le problème se pose parce que là, c'est les chefs coutumiers qui ne paient pas. D'ailleurs, on vient, il peut distribuer le sol comme il veut.
En principe, la gestion des terres coutumières est prévue par la loi. Les terres rurales, c'est-à-dire que les autochtones qui vivent sur ces terres ont le droit de l'occuper, d'ériger leur maison ou d'exploiter les sols en faisant des champs, en faisant la chasse, la cueillette et toute autre activité. Ce sont des droits reconnus aux autochtones sur leurs terres coutumières ou les terres dites rurales. Mais lorsque on veut acquérir en bonne et due forme, en ces cas-là, on doit suivre la procédure telle qu'est prévue par la loi.
Il faut se diriger vers le conservateur.
Effectivement, parce que même quand on voit dans les périphéries de la ville de Kinshasa, beaucoup de gens qui ont signé des contrats de vente, si on peut les appeler ainsi, avec les chefs coutumiers, que ce soit vers Maluku, Kinkole, mais ils finissent toujours par introduire la demande au niveau des services des affaires foncières et obtenir les documents requis par la loi.
Et tout ça, ça prend du temps. Hein?
Ah oui, ça est normal. L'administration doit faire son travail parce qu'il faut que les géomètres descendent sur les lieux, procèdent au mesurage. On ne peut pas délivrer un titre comme ça sans qu'il y ait eu vérification, sans qu'il y ait eu des documents requis. Il faudra aussi que l'on vérifie si la terre sollicitée ou l'espace sollicité est propice et convenable pour y ériger des bâtiments. Parce qu'on voit qu'il y a des constructions anarchiques dans des milieux qui ne sont pas appropriés et qui occasionnent des éboulements, des érosions et bien d'autres désagréments.
Oui, maître Dominique, on va évoluer. J'ai mon titre de propriété, un certificat justement d'arrivement. Le propriétaire a perdu, je vais perdre ses actes de propriété de mon terrain et l'étude notariale n'existe plus. Cependant, le terrain est recensé au cadastre. Peut-on réaliser la vente et comment?
En principe, avant de réaliser la vente, on doit d'abord déclarer la perte des titres et solliciter le remplacement des nouveaux titres. À ce moment-là, on peut procéder à la vente ou à la cession de ses droits sur le fonds, sur le sol à
quelqu'un d'autre. Donc d'abord procéder par la déclaration.
Je crois que c'est mieux de procéder d'abord par le remplacement des titres perdus. Parce que quand vous allez contracter avec une personne, vous devez le prouver que vous avez des droits. Comment vous allez le prouver si vous n'avez pas de titres?
Alors, quelle est la durée de validité d'un titre de propriété?
Non, ça dépend. Le titre de propriété en matière immobilière, c'est le certificat d'enregistrement. Le certificat d'enregistrement, lorsqu'il est établi, il a une durée indéterminée. Pour autant que le fonds, le sol existe, la maison existe, le certificat d'enregistrement est valable pour tous les temps. Mais le problème se pose pour des cas de contrat de location. Lorsqu'on a un contrat de location, il a une durée, généralement c'est 2 ans, on peut les renouveler encore, c'est pour pouvoir mettre en valeur. Lorsqu'on n'a pas mis en valeur, on n'a pas renouvelé le contrat à l'échéance, on peut être surpris par une mesure de reprise par l'État du terrain ou de la parcelle qui avait été confiée.
Alors, en cas de titres de propriété dûment signés par un même conservateur pour un même terrain, comment reconnaître le vrai du faux?
En principe, pour reconnaître un bon titre de propriété, un bon certificat d'enregistrement, il faut se rendre au service des affaires foncières chez les conservateurs de titres immobiliers où il y a ce qu'on appelle les registres mères. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Donc, ces certificats-là comportent le numéro de tous les certificats d'enregistrement. Si ces numéros se trouvent dans le certificat, dans le registre, et qu'on vérifie l'authenticité à partir des mesurages, dimensions et tout ça, à ce moment-là, on peut se dire qu'on est en face d'un titre de propriété authentique.
Est-ce qu'un titre foncier, un titre de propriété peut être comparé à un livret parcellaire?
Non, les livrets parcellaires, ce sont des titres d'occupation qui étaient livrés à l'époque. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1973, les livrets des logeurs n'ont plus réellement des valeurs ou des forces probantes en droit n'ont plus des valeurs juridiques. Le seul titre de propriété d'immeuble valable, c'est le certificat d'enregistrement.
Donc, je crois que pour éclairer un peu la lanterne de nos auditeurs, quand on parle des titres des livrets parcellaires, donc en lingala, on appelle ça Bukwalupang.
C'est comme ça que beaucoup de gens appellent, mais Bukwalupang. Ce n'est plus vraiment le Bukwalupang qu'il faut.
Oui, donc il faut plutôt chercher à la place avoir un certificat d'enregistrement.
Voilà, il faut convertir les livrets des logeurs en certificat d'enregistrement. Avoir un certificat d'enregistrement, c'est le seul titre de propriété en matière immobilière qui est valable au regard de la législation congolaise.
Mais quelle différence il y a entre livret parcellaire et titre foncier sur le plan concret?
Non, quand on parle des titres fonciers d'une manière générale, il s'agit des documents que l'on obtient des services des affaires foncières pour garantir un droit qu'on peut avoir sur le sol. C'est le cas du contrat de location, c'est le cas du contrat des concessions, le certificat d'enregistrement, tous sont des titres fonciers, mais ils ont des valeurs différentes. Le contrat de location donne le droit au locataire, celui qui a conclu ce contrat avec l'État, de jouir du sol et d'ériger des concessions, voilà, des constructions sur ce sol. Et le certificat d'enregistrement consolide le droit de propriété de la personne, le droit de propriété de la maison érigée sur le sol de l'État et lui donne le droit de jouir de cette partie du sol de manière indéterminée.
Oui, mais je reviens encore sur la question que j'avais posée. Quelqu'un qui se retrouve, on se retrouve entre deux cas de titres de propriété, du moins signés par le même conservateur, et le même conservateur a signé et qui donne le droit, c'est-à-dire l'appropriation à deux personnes. Alors, ces deux personnes sont en conflit. Comment ils peuvent faire pour rentrer dans ces droits en pareille confusion?
En principe, lorsque le conservateur des titres immobiliers arrive à établir un nouveau certificat d'enregistrement sur une parcelle, si la parcelle avait déjà un autre certificat d'enregistrement, il exige que le premier certificat d'enregistrement soit restitué. Et lorsqu'on restitue, on inscrit au verso de ce certificat d'enregistrement que ce certificat d'enregistrement a été soit annulé ou soit par le fait de la mutation a été annulé en partie soit d'un contrat de vente, soit d'un autre acte générateur et cela a donné lieu à ce qu'on puisse établir un nouveau certificat d'enregistrement. Et dans le nouveau certificat d'enregistrement, on inscrit bien que ce certificat d'enregistrement est inscrit en remplacement de tel certificat d'enregistrement pour des raisons bien précises. On ne peut pas, en principe, trouver en circulation deux certificats d'enregistrement valables pour un même fonds. Ou alors, dans ce cas, on peut appliquer, selon les circonstances, le principe de l'antériorité de l'acte, c'est-à-dire l'acte le plus ancien, est valable par rapport à l'acte reçu récemment, et surtout si cet acte a été obtenu pendant une période suspecte, c'est-à-dire lorsqu'il y a un litige ou il y a un conflit latent.
La guerre, par exemple. Voilà.
Bon, ça dépend des circonstances. Effectivement, il y a des circonstances exceptionnelles qui peuvent faire que les gens profitent d'un désordre et d'une situation d'inattention pour se faire délivrer un acte. Alors cet acte-là, en droit, on dit qu'il est obtenu pendant la période suspecte, et dans ces cas-là, on fait valoir l'acte le plus ancien.
Oui, est-ce que l'État peut reprendre un bien qu'il a déjà, auquel il a déjà accordé un titre à quelqu'un? Est-ce qu'il peut le reprendre? Parce que nous avons vu, je cite les cas par exemple de Sokopa, où nous avions eu à aborder ce sujet la semaine dernière, la population, il y a des gens qui ont obtenu des titres de propriété en bonne et due forme, mais ils se sont vus, ils ont vu leur maison être démolie comme ça 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard.
Merci beaucoup, JR. Sur la question, nous devons avoir une lecture plus stricte de la loi pour dire qu'en matière de la gestion du sol dont l'État est le seul propriétaire, on distingue les biens du domaine privé et les biens du domaine public de l'État. Les biens du domaine public de l'État sont les biens qui sont confiés à un service public, qui servent pour un usage public. Et ces biens-là, selon la loi, sont hors commerce, sont inaliénables, sont imprescriptibles. Donc on ne peut pas les céder. Les biens du domaine public ne peuvent pas être cédés. Tout contrat, tout acte qui porte sur un bien du domaine public de l'État, dès lors que ce bien n'est pas encore désaffecté, c'est-à-dire on peut prendre une mesure pour désaffectation pour dire que ces biens quittent les domaines publics pour entrer dans les domaines privés. Dans ces cas-là, on peut l'aliéner. Mais s'il n'y a pas eu un acte correct qui désaffecte, qui sort un bien du domaine public pour le mettre dans les domaines privés, tout contrat de vente, tout acte qui portera sur un bien du domaine public de l'État est un acte nul. On ne peut pas s'en prévaloir. Il faudra que nous puissions aussi le savoir. Mais lorsque l'État a cédé en bonne et due forme un bien qui a été désaffecté, dans ces cas-là, pour des raisons d'intérêt général, l'État peut le reprendre. Mais dans ces cas-là, l'État doit indemniser la personne, le propriétaire.
Mais voilà. Mais parce que, vraiment, bon, je ne sais pas, parce que les auditeurs aimeraient bien avoir clair dans ces histoires, il y a eu un arrêt de la cour d'appel de Matete, disons, interdisant la poursuite de la démolition de ces terrains, parce que, disons, il y a un jugement en cours, il n'y a pas encore eu de clôture de dossier. On a demandé à ce que l'opération s'arrête, aussi longtemps que les gens sont en procès, parce que ces gens-là détiennent en bonne et due forme les titres de propriété. Alors aujourd'hui, il y a vraiment une confusion.
En principe, lorsque les juges sont saisis d'un litige sur une situation quelconque, la situation est censée être dans l'état où elle est au moment de la saisine du juge, jusqu'à ce que le juge va se prononcer. C'est ce qui justifie l'arrêt de la cour d'appel de Matete qui veut que les choses restent en état jusqu'à ce que la cour puisse se prononcer.
Mais malgré cet arrêt, il y a eu tout de même la poursuite de cette opération.
Là, c'est une violation de la loi.
Une violation de la loi. Alors, il y a beaucoup de réactions, mais j'aimerais d'abord vous poser une question. Croyez-vous que la loi protège les propriétés acquises illégalement?
En principe, la loi est là pour protéger tout le monde, mais il faut qu'il y ait au départ, en matière de justice, on dit il faut une cause licite, c'est-à-dire une cause juste. Lorsque on vient devant la justice, devant l'État, pour des causes illégitimes, pour des causes qui ne sont pas justes, la loi n'est pas là pour couvrir les irrégularités et les injustices.
Un homme qui achète en bonne et due forme une propriété tout près de la concession de l'aéroport d'Engili, ou bien des sites stratégiques du pays, par exemple la RTNC, le Palais du Peuple, un jour il voit des gens débarquer chez lui pour démolir la maison qu'il a construite. Comment peut-il réagir?
Est-ce qu'on doit d'abord se poser la question de savoir est-ce que la maison a été construite sur les sites, comme tu dis, de la RTNC ou de l'aéroport de la... Oui. Si c'est sur les sites, ça, j'ai dit tout à l'heure que si c'est sur les sites, il s'agit là d'un domaine public. Et dans ces cas-là, ces domaines sont inaliénables, on ne peut pas les vendre. Donc les ventes, pareil, sont nulles automatiquement. Mais lorsque la personne a construit en dehors du site, a acquis tous les titres régulièrement, on ne peut pas démolir. Lorsqu'il s'avère que pour le besoin d'intérêt général, on doit élargir les sites, à ce moment-là, on procède par la voie qu'on appelle l'expropriation pour cause d'utilité publique. Et dans ces cas-là, on doit indemniser la personne.
Alors, Maître Dominique, on vous retient encore le temps pour nous de prendre le deuxième sujet qui a presque trait au lotissement, à l'obtention des titres de propriété, conflits fonciers. Nous allons encore avoir des éclaircissements à votre niveau, mais on marque une pause musicale et on se retrouve juste après.
Maria, Thomas, Gira, Motan, Paz, Dini, Dona, Daquela, Daquela, Olivier Villa, Tati Tigana, Héros de Plan. Blondine de Manila, I'm gonna go.